Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui la pianiste Akane Sakai. Bonjour Akane.
Bonjour Frédéric.
Alors, je résume votre parcours. Vous êtes née à Nagoya, au Japon, et avez commencé vos études de piano auprès de votre mère. Après avoir obtenu votre diplôme de l'école de musique Tohogakuen, vous obtenez un premier prix d'excellence après un cursus suivi auprès du professeur Alan Weiss à l'Institut Lemens de Belgique. Vous recevez également les conseils de Lilia Zilberstein et Pavel Gililov. Vous êtes lauréate du développement des jeunes artistes décerné par le ministre de la Culture japonaise. Vous avez également obtenu une bourse de Yellow Angel Foundation Japan. Depuis lors, vous apparaissez sur les scènes internationales telles que la Philharmonie de Paris et la Salle Pleyel, le Century Hall de Tokyo, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles ou le Théâtre Colón à Buenos Aires. Musicienne de chambre émérite, vous collaborez avec des partenaires comme Martha Argerich, Guido Kremer, Ivry Gitlis, Akiko Suwanai, Yuzuko Origome, Nicolas Angelich, Evgeny Bojanov, Nelson Gurner, Edgar Moreau ou Alexandra Konunova. Vous enregistrez pour Deutsche Grammophon, Warner Classic et Avanti Classic et avez fait vos débuts en solo pour le label King Records. Je vous propose de débuter notre entretien avec trois pièces tirées de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, Juliette jeune fille, Les Montaigu et les Capulet et Mercutio.
Thank you.
pièce tirée de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev dans l'interprétation de notre invité Akane Sakai. Akane, comment avez-vous fait la connaissance du piano?
En fait, comme ma mère elle est professeure de piano, donc ce n'est même pas...
C'était naturel.
Il était là, voilà.
Il était là. Et dans votre enfance, quels étaient les héros musicaux? Quels étaient les personnages que vous aimiez écouter, qui vous fascinaient?
Ça, c'est très difficile à dire.
C'était des pianistes?
Non, pas du tout.
C'était quoi?
Le piano, pour moi, c'était quelque chose de trop difficile. Mm-hmm. C'était quelque chose qui demandait énorme travail et énorme patience, alors j'essayais d'éviter le plus possible.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez continué?
Parce que, exactement, parce que je ne voulais pas.
Oui. Et alors quoi? Parce que vous ne vouliez pas, alors il fallait continuer?
À un moment donné, j'ai changé. Quand j'avais quoi? 11 ans et demi, comme ça, je suis allée à une école, très bonne école, pour les études normaux. Et je pensais que j'allais continuer dans ce domaine-là. Mais un hasard qui fait changer ma décision ou quoi que ce soit, alors c'est comme ça.
Et donc vous êtes revenue au piano?
Non, j'ai toujours continué, mais c'était toujours une façon hobby, oui.
Et alors, au-delà de votre mère, vous avez eu d'autres professeurs au Japon de musique?
Oui, bien sûr.
Alors, comment est-ce que vous décririez l'enseignement musical au Japon?
Cette question, elle est un peu compliquée à répondre, parce que...
Il y a beaucoup de disciplines. Ah, est-ce que l'approche est très différente de celle que l'on trouve en Europe, par exemple?
Mais, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas très bien... pour les éducations pour les enfants ici, les très jeunes âges, oui. Donc, c'est un peu difficile à dire. Je ne suis pas assez objective pour répondre. Mais au Japon, je sais que, comme beaucoup de pays asiatiques, je peux dire, je pense que l'éducation est assez stricte.
Assez sérieuse.
Oui.
Et alors, on vous pousse directement vers une carrière ou on peut faire ça plutôt comme hobby, comme vous l'avez dit?
N'importe quelle activité en dehors de l'école, par exemple, si on fait un sport, non? Ça aussi, je pense que c'est très sérieux.
Tout est fait très sérieusement?
Je dirais oui.
Avec concentration?
Et beaucoup de discipline, non?
Et beaucoup
pas,
de discipline.
Peut-être pas exactement, pas pour le plaisir, peut-être c'est ça la différence, mais je ne suis pas très sûre non plus.
Alors, la musique classique est assez populaire au Japon. Je parle de la musique classique occidentale. Comment est-ce que vous expliquez que les Japonais se passionnent pour la musique classique?
Autrement, on peut aussi poser une question. Est-ce que nous, les Japonais, on est intéressés à la musique japonaise ancienne ou non? Ça, c'est, pour moi, ça semble que la même question, finalement. Et c'est là, y compris moi-même, je n'ai aucune idée. Moi, j'adore regarder, aller au théâtre de Kabuki. Et là, exactement, il y a la musique traditionnelle. Mais...
C'est une passion que les Japonais éprouvent pour l'histoire, pour les choses anciennes?
Je ne sais pas. Mais les choses, c'est que c'est un peu différent, comme si le Japon était fermé pendant 300 ans. Il y avait trois qui pouvaient venir au Japon, mais pas tellement librement non plus. La musique classique, premier temps, c'était 1870 quelque, j'imagine. Alors avant ça, il n'y avait aucune... Zéro.
Il n'y avait que la musique locale, que la musique japonaise qui était jouée.
Oui.
Dites-moi, est-ce que la jeunesse japonaise, que les jeunes au Japon continuent à écouter de la musique classique ou c'est plutôt quelque chose qui est en train de diminuer, de perdre de son intérêt?
C'est-à-dire qu'au Japon, il y a beaucoup de gens très fanatiques. Il y a beaucoup de CD, par exemple, qui vendent énormément là-bas, je pense.
Oui, c'est un des derniers pays qui vend encore beaucoup de CD, oui, effectivement.
Oui. Mais les gens fanatiques et puis les gens standard, comment dire?
Normaux.
Oui. Je crois que ça se passe comme ici, quoi. Donc, par exemple, si on donne au concert, la salle de concert, la plupart des gens sont plutôt âgés.
C'est ça. Mais, par exemple, vous avez beaucoup de salles de concert.
2000 salles, j'ai l'impression.
Dans tout le Japon.
Oui. Et par exemple, grand, hein?
À Tokyo, il y a combien d'orchestres symphoniques?
Professionnel, 9.
9.
Mais symphoniques, oui. Sans compter les chamber orchestras.
Sans les orchestres de chambre. Donc c'est plus même qu'une ville comme Paris, par exemple.
Ah oui.
Donc c'est incroyable. Il y a vraiment une tradition de musique classique.
Et plus, il y a énormément les orchestres étrangers qui viennent aussi.
Qui viennent faire des tournées. Donc c'est quand même encore très populaire.
C'est concentré, je pense.
Sur les grandes villes.
Ce n'est pas majorité. Je crois que c'est les mêmes personnes qui vont, qui sont intéressées. Je ne pense pas qu'il y a une... développement de nouveaux publics, espérons, oui, mais...
Ça ne s'élargit pas, vous voulez dire?
J'ai l'impression, mais c'est seulement mon impression. Et après ce Covid, on verra bien.
Oui, bien sûr.
Espérons que ça change en positif, oui.
Alors nous allons continuer avec la transcription de Rikuya Terashima de la symphonie classique de Prokofiev pour deux pianos dans l'interprétation de notre invité Akane Sakai en duo avec le virtuose bulgare Evgeny Bojanov. Thank you. transcription de Rikuya Terashima de la symphonie classique de Prokofiev dans l'interprétation de notre invité Akane Sakai en duo avec Evgeny Bojanov. Akane, dites-nous, comment vous vous êtes retrouvé en Belgique?
Ça, c'était par un miracle et un hasard, voilà.
Mais quel était ce hasard? Quel était ce miracle?
Comme ça.
Comment vous avez postulé? Vous avez par exemple étudié avec Alan Weiss.
Oui.
Comment êtes-vous rentré en contact avec lui?
Ça, c'était Marta Argerich qui m'a conseillé. Mais j'ai aussi étudié avec Evgeny Mogilevski au oui. début.
Au conservatoire?
Oui, ici à Bruxelles.
Comment est-ce que ça s'est fait?
Non, en fait, l'histoire, c'était que j'ai planifié d'aller en Allemagne et j'étais en contact avec le professeur que je voulais. Mais tout d'un coup, il m'a écrit une lettre disant que je suis désolée, mais j'ai décidé de prendre ma retraite. Alors d'un coup, je n'avais plus où aller. Et à l'époque ça semble que je suis un peu...
On est tous un petit peu... Il n'y a pas de gêne. Hein.
Mais il n'y avait pas l'Internet, justement. C'était l'époque de fax, oui, et les lettres. Mais c'est là que c'est Martha m'a dit que c'était sa recommandation, quoi. Voilà.
Auprès d'Alan Weiss, pour intégrer... auprès d'Evgeny Mogilevski. Et comment vous êtes rentré en contact avec Marta Argerich?
Ça, c'était bien avant. On se connaissait.
Depuis le Japon?
Oh, oui, bien sûr.
C'était depuis son festival?
Non, c'était avant son festival.
C'était avant son festival.
Oui.
C'était donc quand elle était de passage à Nagoya, puisque vous êtes de Nagoya?
Non, j'étais à Tokyo.
La rencontrer.
Mais parce qu'elle venait quand même assez souvent...
Alors, vous avez étudié avec Evgeny Mogilevski, qui était un professeur du conservatoire de Bruxelles et un des plus éminents, et avec Alan Weiss. Qu'avez-vous retenu de leur enseignement à tous les deux?
Avec Alan, comme il est toujours intéressé, son idole, Joseph Hoffmann, oui, qui était un énorme, immense virtuose de tout ce temps, après Liszt.
Et un inventeur également, il a inventé des tas de choses, oui.
Et puis, il avait étudié avec un de son assistant, qui s'appelait David Seperton, qui enseignait à Curtis Hall à un moment donné. Et donc, la technique, pianistiquement, je pense que j'ai pu regarder la force de légèreté. Comment je peux expliquer ça?
C'est très bien dit comme ça, oui. La légèreté.
Mais la force. Légèreté, ça a l'air des fois... Mais d'être légère aussi, c'est sérieux aussi.
Et avec Mogilevski, qu'est-ce que vous avez retenu de son enseignement?
Ça, c'était une des premières années que je suis venue en Europe. Donc, pour moi aussi, c'était déjà un peu compliqué au niveau français. Mais avec lui, c'était évidemment pianistiquement l'école russe que je n'avais jamais vraiment vécue. Mon prof au Japon, elle était élève de Margaret Long. Donc, c'était plutôt français quoi, oui. Donc, vraiment, à mettre de près, de regarder, écouter le son qu'il peut produire, ça, c'était évidemment, ça reste une chose très chère pour moi.
Alors, vous vous passionnez pour deux compositeurs juifs d'origine polonaise assez peu connus du grand public, Mieczysław Weinberg et Władysław Szpilman. Comment les avez-vous découverts?
Weinberg, ça, c'est bien sûr Gidon Kremel, grâce à Gidon Kremel.
Le violoniste.
Oui, que j'admire tellement depuis que j'étais... teenager.
Adolescente.
Oui. Et qui, toujours, il cherche un trésor, n'est-ce pas? Trésor un peu oublié ou comme ça. Et puis, il m'a aussi parlé de sa vie et comment c'était. Et puis, j'ai lu aussi. Et puis, un jour, on avait un concert au Japon. Et puis, d'abord, il voulait qu'on joue le trio de Weinberg. Mais finalement, ça a été changé à Schumann parce qu'il n'avait pas assez de temps. Mais il m'a demandé d'apprendre une pièce de solo. Une pièce solo, piano, de Weinberg. Et il jouait aussi un violon solo de Weinberg. Et ça, c'était ma première expérience de Weinberg. Mais ça m'a énormément plu. Et après, j'ai continué à jouer plusieurs choses. Et je continue encore.
Et Szpilman, comment est-ce que vous l'avez découvert?
Szpilman, ça, c'est évidemment le film que je pense que tout le monde connaît.
Donc, c'est le fameux De Pianiste de Polanski.
Oui. Et après, j'ai fait certaines recherches. Et puis, comme j'allais en Pologne de temps en temps, et on m'avait demandé de jouer quelques mazurkas de certains compositeurs très rares aussi. Et puis, j'ai proposé, est-ce qu'il y a Szpilman aussi? Est-ce qu'on peut combiner? Et ça a commencé comme ça, je pense. Après, j'ai aussi joué le concertino, qui était écrit pour la réouverture de l'orchestre Radio Polonaise, que lui-même qu'il avait joué, voilà.
Et donc, c'est comme ça que vous avez commencé à découvrir et à déchiffrer l'œuvre de ces deux compositeurs.
Oui, et puis, je suis intéressée à sa vie aussi, et puis son fils, qui habite au Japon, par exemple. J'ai lu aussi sa biographie, qui est très fascinante.
Le fils donc de Spielmann. Oui. Il vit au Japon.
Oui, il enseigne politique. L'histoire politique japonais.
C'est fascinant ça, c'est étonnant qu'ils se soient retrouvés là-bas. Alors, on va continuer avec un petit peu de musique. L'Andante et Variation Cochelle 501 de Mozart, où vous jouez en duo avec Martha Argerich. Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. L'Andante Variation Cochelle 501 de Mozart, Akane Sakai, notre invité, était en duo avec Martha Argerich. Alors donc, vous connaissez bien Martha Argerich, on en a parlé brièvement. Quels sont les conseils les plus marquants que vous avez reçus d'elle?
Ça, c'est extrêmement difficile comme question.
Oui, mais il y en a beaucoup.
Oui, parce que, mais en même temps, ce n'est jamais tellement définitif, comment dire.
C'est déjà une leçon, ça. De sa...
Oui, donc, bah, le message plus grand, peut-être, c'est de sa part, peut-être, c'est faire quelque chose.
Faire quelque chose, faire.
Oui.
C'est ça.
Bah, en jouant piano, par exemple, non? On parle de ça, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Mais donc, je ne sais pas quoi, mais faire quelque chose.
C'est-à-dire, donc, quoi, pas simplement jouer les notes, faire plus que ça?
Oui.
C'est
oui,
ça? Oui. OK. Depuis 3 ans, vous avez accepté la charge de directrice artistique du festival Martha Argerich à Hambourg. Alors, quelles sont vos priorités lorsque vous concevez ces programmes? Qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous développez les programmes de ce festival international?
D'un autre festival, c'est une combinaison de plusieurs groupes de musique de chambre. Et j'aimerais bien trouver une chimie nouvelle, un peu surprising, qui n'a jamais été, par exemple.
Donc, c'est comme mélanger des épices, en fait.
Oui, voilà.
Composer un bouquet.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et alors, vous donnez une priorité aux œuvres rares ou aux œuvres connues ou ça n'a pas tellement d'importance?
Ce que j'essaie de faire, c'est avoir les deux choses en même temps.
Un mélange entre les deux. Alors, je vous propose de poursuivre avec votre interprétation de « Ma mère loi » de Ravel.
Thank you.
Merlois de Maurice Ravel, cinq pièces enfantines dans la version pour piano seul, interprétée et transcrite par notre invité Akane Sakai. Alors Akane, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter?
Donc, le deuxième mouvement du trio de Weinberg, interprété par Gidon Kremer, Julian Avdeyeva et Giedre.
Alors, je vais vous le dire parce que je l'ai écrit ici. Giedre Dirvanoskaite. Alors, on va l'écouter maintenant. C'est un mouvement qui s'appelle Toccata.
Voilà. Thank you.
C'était donc la toccata, deuxième mouvement du trio en la mineur opus 24 de Mieczysław Weinberg par Gidon Kremer, Juliana Avdeeva et Gyert Dirvanoskaite. Il s'agissait du choix d'Akane Sakai, notre invité. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Akane Sakai d'avoir accepté notre invitation.
Merci Fred.
Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes ou le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les jeudis à 19h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.